journal de midi. Linda Christelle Ballier.
Madame, monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour ce point de l'actualité de la mi-journée. De vives échauffourées ont éclaté hier à Iré après que le maire Gilbert Francis Kakou, élu RHDP, ait annoncé son retour au PDCI RDA. Nous en saurons un peu plus dès l'entame de ce journal avec notre correspondant régional, Abel César Cassin. Et puis l'attestation de droits d'usage coutumier entrée en vigueur le 1er juillet dernier ne remet pas en question les droits des chefs coutumiers, selon le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, hier mardi au cours de la tribune Tout Savoir Sûr. Pour l'actualité internationale, Soro Adams parlera avec l'historien Aswaga Laurent de la CDAO qui envisage la création d'une force antiterroriste. Et puis dans l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales contemporaines, jettera un regard sur les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France. Dans ce cadre, il répondra aux questions de Junior Cardin. Voilà pour nos grandes lignes. La réunion du conseil municipal présidé par le maire de Iré, Gilbert Francis Kakou, hier mardi, s'est terminée en queue de poisson. L'éruption dans la salle d'une foule de jeunes gens du RHDP dans la salle a interrompu les travaux. En ligne donc de Divo, notre correspondant Abel César Cassin pour plus de détails.
C'est à 10h40 que de jeunes gens, munis de pancartes au message peu favorable au maire de la commune de Iré, Gilbert Francis Kakou, entre bruyamment dans la cour de la mairie. Un groupe de femmes favorables au maire les attendait. Des invectives sont échangées. Un quart d'heure plus tard, des jeunes gens réussissent à forcer le dispositif sécuritaire pour pénétrer dans la salle de réunion où déjà, entre les 43 conseillers municipaux présents sur 50, l'atmosphère est enflammée. Le sous-préfet de Didoko, Jean Pitoukone, qui représentait son homologue de Iré, et le maire sont exfiltrés sans dommage. Une poignée de minutes après, c'est un autre groupe d'individus qui s'active à défoncer les portes des bureaux des agents au maire qu'ils estiment non solidaires de Francis Kakou. Pour mettre un terme à ce débordement et aux conséquences plausibles, les forces de défense et de sécurité, à bout de patience, usent des grenades lacrymogènes pour disperser tout le monde. Le président des jeunes du RHDP de Iré, Soulé Mustapha, nous explique par la suite que ce mouvement d'humeur est consécutif au départ du maire RHDP Gilbert Francis Kakou au PDCI. En guise de déclaration, le maire nous a renvoyé à une conférence de presse qu'il dit tenir à Abidjan dans les heures à venir pour se prononcer sur ces incidents. Notons qu'il n'y a eu ni blessés ni dégâts matériels notables au cours de cette manifestation. De retour de Iré, région du Lodjibwa, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Merci à vous, Abel César Cassin, pour ce compte-rendu. Et puis, au PPACI, le docteur Assoua Adou, vice-président du parti en charge de la ligne et la politique générale, en liaison avec l'école du parti, a animé hier mardi dans la commune de Cocody une conférence de presse. Objectif, montrer les enjeux, le plan d'action qui seront définis dans le programme de société du parti du PPACI. Jean-Mélène Bitti nous fait le point.
Pourquoi ce manifeste? Professeur Adam-Marie Clémence, président de l'école du PPACI, fait des éclairages.
Le manifeste du PPACI est un condensé dont s'inspirent toutes nos options, nos projets, nos actions dans notre projet de société et dans notre programme de gouvernement.
Bien avant de déballer le programme de société du PPACI dans les prochains jours, Assoua Adou, conférencier du jour, est revenu sur les problèmes vécus par la population.
Un pays qui fait un budget et lui-même il ne peut dégager que 30%. Le reste, c'est les seuls qui doivent donner. C'est-à-dire, c'est le crédit, la dette, privatisation de l'école, privatisation de la santé. Donc, il ne faut pas être étonné que les Ivoiriens meurent. C'est l'enrichissement illicite. Plus de solidarité. Toutes les forêts classées ont été pénétrées. L'empaillage clandestin, l'usage des herbicides et autres poisons ont tué la terre de Côte d'Ivoire. Le résultat, c'est que nous mangeons et empoisonnons. L'eau que nous buvons est empoisonnée.
Une forte délégation du PDCI, conduite par Anouala Kossi-Bendjo, était à cette conférence de presse. Selon lui, le PDCI et le PPACI doivent travailler ensemble pour les prochaines échéances.
Je voudrais vraiment vous féliciter pour le travail qui a été fait. On espère tout simplement qu'on saura tout pour que nous puissions ensemble.
ensemble remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du bonheur. Nous avons la même perception de la situation de notre pays.
Les prochaines étapes du parti de Gbagbo sont la présentation de son programme de société et l'organisation du meeting du 14 juillet prochain à Bonoua.
Et puis, dans le Bas-Sassandra, les familles sinistrées des suites des pluies diluviennes ont reçu la compassion du gouvernement ivoirien. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait un don de vivre et non vivre aux familles de San Pedro. Les détails dans cette correspondance de Kofi Benson.
Les pluies diluviennes du 26 juin dernier ont fortement occasionné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, Miss Delmonte Dogo, a apporté la compassion du gouvernement aux familles sinistrées, tout en donnant des conseils pour éviter à l'avenir ces cas de sinistre.
Nous avons 4 décès et un porté disparu. Quittons les zones à risque. Les bas-fonds sont faits pour des cultures et non pour des habitations. La question qu'on nous pose, où est-ce qu'on doit partir? Mais là, vous êtes obligé d'être dans des écoles. Possibilité est faite lorsque la pluie commence de quitter ces zones-là pour sa propre vie. Nous sommes venus vous dire Yako, mais je ne pouvais pas le dire Yako sans donner des conseils et sans appeler à la vigilance des uns et des autres.
Un don d'un peu plus de 2 millions de francs CFA, 150 sacs de riz, 25 cartons d'huile, 25 cartons de pâte de tomate, 150 nattes, 20 cartons de savon a été fait aux familles sinistrées. Une compassion saluée par ces familles.
C'est pas la pauvreté que nous, on se retrouve là-bas. Aujourd'hui, si le gouvernement a reconnu de nous faire de cette faveur, nous aussi, on va prendre conscience.
Le gouvernement vous demande de quitter les bas-fonds, vous allez le faire?
Bon, on va essayer de voir. Si on a eu un petit amélioration, on peut quitter.
C'est l'eau qui nous a cherché chez nous. Depuis lundi, on est allé à l'école sans se laver chez les gens. On n'est pas coin pour dormir, on n'est pas mangé. Si tu iras chez moi, on dit la même, il n'y a rien même, tout est gâté.
On dit de quitter les bas-fonds, là. Vous allez quitter maintenant?
Si il y a eu coin, là, il est sorti. Parce que ma vie, là, ça me coûte cher.
À ce jour, 40 ménages vivent dans 2 écoles primaires à la suite des inondations. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Entrée en vigueur le 1er juillet dernier, l'attestation des droits d'usage coutumier en remplacement de l'attestation villageoise ne remet pas en cause les droits des chefs coutumiers. Ils continueront de signer les attestations comme c'était le cas auparavant. C'est la clarification faite par le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui s'exprimait hier mardi lors de la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. Le point avec Christelle Yessot.
Le directeur du domaine urbain présente l'attestation des droits d'usage coutumier.
L'attestation des droits d'usage vient en remplacement de l'attestation villageoise. Ce document permet de prouver un lien de droit entre un détenteur de droits coutumiers et un terrain issu d'un lotissement approuvé. Cette attestation permet à nos concitoyens de reconnaître un modèle unique d'attestation lorsqu'ils veulent acquérir des parcelles.
Pour Abdoulaye Diallo, cette attestation vient mettre fin au litige foncier.
L'institution de cette attestation va permettre d'éviter les multiples attestations sur les parcelles. Parce que l'administration prend soin de faire un seul et unique imprimé sur un terrain et le met à la disposition des villageois.
Sur l'ADU en question, il y a un QR code qui est là. Et ce QR code permet à l'usager d'être sûr des informations qui sont reportées sur l'attestation de droit d'usage.
Il explique qu'elle ne vient pas mettre à mal à ceux qui possèdent les anciennes attestations.
Ces attestations sont toujours valables si le terrain existe vraiment et si c'est dans un lotissement approuvé. Seulement, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne veut pas qu'il coexiste deux types d'attestations dans le pays. Donc on donne un délai à ceux qui ont les anciennes attestations de faire leur demande d'ACD.
Il s'est par la suite exprimé sur le mécontentement des chefs coutumiers face à cette nouvelle attestation.
L'attestation ne vient pas leur enlever un quelconque pouvoir. Ces documents seront bel et bien signés par eux.
En terminant par des conseils aux usagers.
Si le vendeur n'a pas ce papier, on ne vous conseille pas d'acheter. Parce que ce n'est pas sûr que ce terrain-là existe vraiment, que ce terrain correspond à quelque chose qui n'appartient pas à l'État.
Les propriétaires terriens possédant l'ancienne attestation ont jusqu'à fin décembre 2024 pour faire leur demande d'ACD.
Dans la région de Bouna, les ONG L'Étoile du Bunkani et la Caritas Côte d'Ivoire de Bouna, en collaboration avec l'OIM et le HCR, ont célébré la semaine dernière la Journée internationale des réfugiés à Kmanzarani, l'un des villages d'accueil des réfugiés du site de transit de Timala. Occasion de sensibiliser les réfugiés et la population hôte sur les causes et les effets de la malnutrition et de la fistule obstétricale. Jérôme Kouassi, témoin pour Radio de la Paix.
L'ONG La Caritas sensibilise, dépiste et réfère les malnutris dans les centres de santé de la région. Bleu Narcisse, chef du bureau de Bouna de la Caritas Côte d'Ivoire.
Parce que nous avons fait l'état des lieux. Les statistiques montrent que la malnutrition, c'est une maladie qui est vraiment généralisée chez les demandeurs d'asile, mais aussi dans la communauté.
Tal Amsetou, une mère demanderesse d'asile, venue au lieu de la manifestation avec son enfant atteint de malnutrition pour des soins. Dans la clinique mobile, André Kofi Jean-Rodolphe est l'infirmier en charge du dépistage des enfants et femmes malnutris.
Et après le dépistage, ceux qui seront dépistés malnutris seront pris systématiquement en charge par le centre de santé de Panzani.
Aussi, l'ONG La Caritas dépiste, réfère et suit la prise en charge holistique des femmes porteuses de fistules obstétricales, une maladie due en partie par la pratique de l'excision. Bleu Narcisse.
Car malgré toutes les sensibilisations, les messages qui sont passés, cette pratique-là continue encore dans la clandestinité. Nous disons que les conséquences sont vraiment désastreuses et qu'il faut arrêter cette pratique. Inviter toutes les femmes qui souffrent de cette maladie à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner, car la prise en charge est totalement gratuite.
Selon les statistiques du HCR, la région du Bounkani a enregistré à la fin du mois de mai 2024 31 356 réfugiés et demandeurs d'asile. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Et après l'inauguration récemment à Abidjan du tout nouveau bureau régional du Fonds international de développement agricole FIDA, le vice-président chargé des services institutionnels, Guo Kiou, s'est rendu dans la région du Poro pour visiter des projets financés par cette institution via le programme d'appui au développement des filières agricoles. Témoin pour Radio de la Paix, Tommy Corona.
Antan Soro Bintou, président de l'organisation professionnelle agricole au Ouaïdjo, le projet a des retombées positives.
Le travail agricole est pénible et difficile. On se demandait tous les jours comment changer notre quotidien. Et le PACFA a mis à notre disposition ce bassin d'eau et toute la technologie pour l'arrosage de nos parcelles.
Toute chose qui réjouit Guo Kiou, vice-président en charge des services institutionnels du Fonds international de développement agricole, FIDA.
Nous avons pu parcourir un peu la zone pour voir un peu les bénéficiaires, discuter avec eux afin de pouvoir voir l'impact, n'est-ce pas, de nos activités sur, n'est-ce pas, ces populations. Et nous sommes vraiment très fiers et très heureux de voir que cela a pu contribuer, n'est-ce pas, à rehausser le niveau de ces producteurs. Au niveau de la mangue, au niveau du maraîcher, au niveau également même des enfants, au niveau de l'école primaire, tout cela ont pu, n'est-ce pas, bénéficier de ces projets-là.
Une occasion saisie par Herman Messan, directeur pays du FIDA, pour décliner quelques perspectives de l'institution financière en Côte d'Ivoire.
Toute la transformation structurelle du secteur agricole, dans les années à venir, nous pourrons doubler littéralement le portefeuille pays.
Notons qu'à terme, le projet touchera 180 000 bénéficiaires, dont 40% de femmes dans les 5 régions cibles du programme d'appui au développement des filières agricoles. PADFA. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
En ce qui concerne l'actualité internationale, aujourd'hui, on parle de sécurité dans l'espace ouest africain. La CEDEAO envisage une force antiterroriste régionale qui aura pour objectif de se déployer rapidement afin d'aider à reconquérir les bases terroristes dans les pays déjà touchés par ce phénomène. Et donc, comment pourrait-elle réussir sa mission? Là-dessus, Dr Aswaga Laurent, maître de conférence en histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, fait des suggestions.
La CEDEAO a un rôle important. Et je dirais même la CEDEAO a un rôle multiforme. Parce qu'il serait puéril de penser que la réponse au terrorisme ne serait exclusivement que militaire. C'est vrai, les différents jeunes au pouvoir aujourd'hui, pris dans le feu de la lutte antiterroriste, vu l'alliance sécuritaire stratégique qu'ils ont avec la Russie, n'accepteront jamais de participer aujourd'hui à une force de la CEDEAO qui vient pour eux tardivement ou bien qui est une forme de reconquête du cœur des Sahéliens. Par contre, ce que moi je suggérerais à la CEDEAO, comme je l'ai dit, la lutte n'est pas que sécuritaire parce que militairement, il serait difficile de venir à bout du terrorisme. Il faut allier maniement d'armes sur le champ des opérations et investissement, ce que la Côte d'Ivoire a bien réussi au lendemain des attaques au nord du pays à Kafolo. Vous voyez, le gouvernement ivoirien a déployé tout un filet social avec des investissements importants qui a détourné les jeunes du Septentrion contre toute aventure djihadiste. Donc, la CDAO aussi peut aujourd'hui, dans ses approches, essayer de voir comment avoir un fonds financier important qu'on pourrait redéployer à travers des filets sociaux vers les jeunesses de ces différents pays.
Docteur Aswaga Laurent, maître de conférence en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à l'instant. Et on parle de sport football, notamment Euro 2024 en Allemagne pour les huitièmes de finale hier mardi. La Roumanie s'est inclinée face aux Pays-Bas par 3-0. La Turquie a remporté son match en battant l'Autruche 2-1. Et pour la prochaine étape de la compétition, l'Espagne affrontera en quart de finale l'Allemagne le vendredi 5 juillet à 16h et la France sera opposée au Portugal le même jour sous le coup de 19h en temps universel. L'invité de la rédaction pour refermer ce journal est professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Répondant aux questions de Junior Cardin, il décrypte les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Professeur Bamba Abdoulaye, les résultats du premier tour des législatives anticipées en France sont connus. Au Rassemblement national, on parle de plus de 33%. Le nouveau Front populaire, plus de 28%. Et puis le camp présidentiel, autour de 21%. Professeur, quel décryptage vous pouvez faire de ces résultats?
Deux analyses possibles. D'abord, la première analyse, c'est l'échec de la majorité présidentielle, qui se retrouve en troisième position. C'est aussi la montée en puissance de Marine Le Pen et Bandila. Et donc, dans les deux cas, c'est vraiment le président Macron qui est en très mauvaise posture.
Donc, on pourrait dire que le président Macron n'a pas eu raison de dissoudre l'Assemblée et de refaire donc ses élections.
Mais il faut attendre le second tour. Vous savez que généralement, quand le Front National est en pole position comme ça, au dernier moment, il y a un élan patriotique nationaliste qui fait que parfois la gauche et la droite se mettent ensemble pour essayer de barrer la montée, l'arrivée au pouvoir du Front National. Donc la semaine qui a commencé, c'est donc l'occasion pour les uns et les autres d'essayer de se mettre ensemble pour essayer de faire front commun face à ce parti politique qui est en train de monter en puissance.
C'est comme ça que vous voyez le second tour ou bien il y a d'autres réalités qui pourraient subvenir?
Très souvent en France, lorsque le Front National est en pole position et qu'à la veille du second tour, vous avez très souvent, même si idéologiquement ils ne partagent pas les mêmes idées, la droite et la gauche essaient de se mettre ensemble pour essayer de faire barrage au fond. Est-ce que cette fois-ci ils pourront le faire? Mais c'est cette habitude-là qu'on a eue en France.
D'accord, mais professeur Bamba Abdoulaye, est-ce que quand vous faites une lecture assez approfondie de cette situation, une majorité absolue pourrait se dégager?
Cela est possible parce qu'on a vu depuis quelques temps quand même que le leader du Front National est en train de monter en puissance. Mais il faut, comme je l'ai dit, rester prudent. Observer jusqu'à la veille, même si les sondages indiquent clairement que cette montée en puissance ne va pas s'arrêter. Moi, je joue la carte de la prudence et puis j'attends le dimanche.
Ces élections législatives anticipées en France, à 6000 lieues d'ici, est-ce qu'elles pourraient avoir des répercussions sur l'Afrique? Parce qu'on voit les Africains suivre ces élections de façon très intéressée.
Oui, pour la simple et unique raison que le Front National a toujours eu une politique dure à l'endroit des Africains qui sont en Afrique. Et c'est peut-être ça qui inquiète un peu les Africains qui sont en Europe. C'est peut-être d'abord la première chose. La seconde chose, c'est peut-être aussi si vraiment ils arrivent à mettre en application leur politique, la rupture qu'ils voudraient donc, qu'ils annoncent très souvent dans la relation France-Afrique, cette rupture-là qui pourrait d'un côté arranger une certaine génération d'Africains qui veulent revoir et visiter la politique française en Afrique, et qui pourrait aussi inquiéter la classe ancienne avec la rupture annoncée par ce parti.
la peur de certains Africains au vu donc des résultats de cette première phase des législatives anticipées est justifiée ou non, selon la conception qu'on a de ce qui se passe là-bas?
Pour ce qui me concerne, c'est d'abord la politique intérieure de la France. Moi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, j'estime que c'est d'abord la politique intérieure de la France, c'est l'affaire de la France. C'est vrai que les États sont interconnectés et donc naturellement, ce qui se passe à l'intérieur d'un État peut avoir des répercussions sur d'autres États. Mais personnellement, cette élection ne trouve pas mon sommeil. J'estime que c'est une affaire franco-française.
Donc le professeur Baba Abdoulaye est d'accord avec ceux qui disent que la politique internationale française reste la politique internationale française, peu importe le candidat qui l'emportera, les données ne changeront pas de façon systématique.
Oui, parce qu'en relation internationale, les États ont leurs intérêts qu'ils mettent en avant. Et donc, quel que soit celui qui sera là, c'est d'abord la première question, quel est l'intérêt de la France? Qu'est-ce qui arrange la France? Qu'est-ce qui est bénéfique pour la France? Une fois qu'ils ont répondu à cette question, ils vont donc peut-être voir qu'est-ce qui pourrait, je mets au conditionnel, arranger les autres. Donc, que ce soit le Front National ou l'autre parti, la priorité, c'est elle française et ensuite les autres entités. C'est la même chose que nous avons également, en tant qu'Africains, pensé. Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Ce n'est pas tant ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe chez nous comme défi à relever.
Professeur Baba Abdoulaye, merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était l'invité de la rédaction de ce jour, professeur Baba Abdoulaye, maître de conférence en histoire de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et il était avec Junior Cardin, un entretien qui marque la fin de cette édition, dont voici le rappel des titres. De vives échauffourées ont éclaté à Iré hier après que le maire Gilbert Francis Kakou, élu RHDP, a annoncé son retour au PDCI. Cependant, aucune victime n'est à déplorer, nous a appris notre correspondant Abel César Cassin. Et puis l'attestation des droits d'usage coutumier entrée en vigueur le 1er juillet ne remet pas en question les droits des chefs coutumiers. Selon le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui était hier mardi à la tribune Tout savoir sûr du CICG. Pour l'actualité internationale, ce roi d'âme, c'était avec l'historien Aswaga Laurent sur la création d'une force antiterroriste envisagée par la CEDEAO. Le docteur Aswaga Laurent suggère d'ailleurs que l'institution ouest-africaine s'inspire de la politique ivoirienne sur le sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit avec la revue de la presse ivoirienne pilotée par Francis Cassis.
Bonjour à tous. C'est par cette affaire de pollution environnementale faisant tant de bruit